voix nue. Cette semaine, en hommage à l'écrivain Jim Harrison, disparu le 26 mars dernier, France Culture rediffuse sa série de rencontres avec Clémence Boulouk en 2006. Ce soir, l'enfance.
Nous sommes en compagnie de Jim Harrison dans le bureau de Christian Bourgois, son éditeur parisien, complice de bonne table et tout simplement ami. Écrivain, scénariste, poète, critique gastronomique et sportif, Jim Harrison est un des personnages que la France aime tout particulièrement pour sa dimension de Pantagruel à fable qui se ferait arpenteur de grands espaces outre-Atlantique et qui se serait forgé un destin, un festin d'écrivain. Qu'est-ce que le destin, sinon la densité de l'enfance ? Vous aimez à citer ces mots de Rilke, Jim Harrison, et c'est avec vos premières années que nous allons cheminer avec vous. Alors pour tenter de pénétrer dans la densité de l'enfance, on va commencer par une date de naissance. Vous naissez le 11 décembre 1937 à Grayling dans le Michigan. Votre mère est issue d'une famille suédoise, et comme les bûcherons de Suède, ils se marient en général avec les locaux. Vous faites le portrait de gens peu expressifs et à certains instants, vous accuserez même cette ascendance nordique d'idées morbides. Alors, qu'en est-il de ce pedigree Jim Harrison?
I like to think I'm without credentials. The only credential that's important is the work, the what you have written, you know.
En réalité, en guise de pedigree, je pense que je ne peux me décrire que par mon travail. Je pense qu'on ne peut se décrire que par ce que l'on a écrit.
Pourtant, il y a une influence certaine, c'est celle de votre père qui est agronome, qui travaille pour l'État et qui gagne peu. Votre foyer est le foyer d'une famille nombreuse et sans fortune, mais votre père vous a donné un goût des mots qui vous a formé et que vous dites perdu à notre époque. C'est votre père qui vous donne cet art de fleurir la langue, Jim Harrison?
Well, my father was this unique sort of man because he was an agronomist, you know, an agriculturist, but he was an obsessive reader of everything, literature. And what I think was an important thing for me as a writer, he could not bear to say the same thing in the same way. He was a highly original speaker. It just bored him to say the same sentence. So he would go crazy creating ornate new ways to say things.
Mon père, vous l'avez dit, était un agronome, c'était un homme d'exception et un lecteur farouche qui lisait tout ce qui lui tombait sous les mains en matière de littérature. Mais ce qui comptait beaucoup pour moi, quand je suis devenu écrivain, c'est que je me suis aperçu que mon père ne disait jamais la même chose deux fois de la même façon. C'était quelqu'un qui s'exprimait de manière très originale et qui était complètement obsédé par le choix des mots et il s'exprimait de façon très ornée, si vous voulez.
But this was at a time when there was no television. We never had a television, even when there was television. He didn't approve of television. He thought people should read. And also, this was when the culture was more oral. It was an oral culture. You know, I'm sure it's the same thing I've seen in small villages in France where people go to the bar and tell stories. Sometimes it's the same story. You've heard it 20 times, but people try to tell a story differently.
À cette époque, il n'y avait pas la télévision. Même quand la télévision est apparue, nous ne l'avions pas parce que mon père n'aimait pas la télévision. Il pensait que les gens devaient plutôt lire. Et à cette époque, la culture était plus orale. Les gens se parlaient davantage, racontaient peut-être la même chose. Je suis sûr que c'est la même chose dans les cafés des villages en France, d'ailleurs. Les gens vont au café, racontent des histoires, parfois la même histoire, mais peut-être de façon différente.
See, in Montana, or in the far north of Michigan, the Upper Peninsula, and in the rural south, people speak very slowly and colorfully. But in New York, everything is very fast. In the cities, the language is very fast. It's just like in France. If you're in Paris, people speak very quickly. But if you're in the countryside near Arles in the south, then people speak more slowly.
Dans le Montana, tout comme dans l'extrême nord du Michigan ou dans le sud des États-Unis, région rurale, les gens s'expriment lentement et de manière colorée, alors qu'à New York et dans d'autres grandes villes, les gens parlent très vite. C'est la même chose en France d'ailleurs. À Paris, les gens s'expriment très vite, alors qu'à Arles, dans le sud, les gens parlent de manière plus posée.
So this helps you as a writer learn how to develop an interesting story. Because if you're not interesting when you're younger, nobody will listen to you. You know?
Ainsi, cela aide l'écrivain à mettre au point une histoire intéressante, parce que lorsque vous êtes jeune, si vous n'êtes pas intéressant, personne ne vous écoute.
Est-ce que c'est aussi ce qui vous a aidé à développer votre art de la digression dans la narration, ce rapport à l'oralité qui est ce rapport que vous avez développé dans votre enfance, Jim Harrison?
I think that's primarily where it comes from, because I don't like linear novels, novels that go A, B, C, D, E, F, G. This doesn't interest me, because that's a false concept of time. When we think about our lives with our 70 trillion circuits in our brains, we jump all over. You know, we think holographically. We don't think linearly. So why should prose be linear? You know.
Oui, pour l'essentiel, je n'aime pas les romans trop linéaires qui vont de A à B puis de B à C, D, E, F, G. À mon avis, c'est une conception fausse du temps. Dans notre vie, nous fonctionnons avec des millions, voire des milliards de circuits neurologiques et notre pensée est holographique, elle n'est pas linéaire. Pourquoi la prose serait-elle alors linéaire ?
À 7 ans, il survient l'accident qui vous définit en même temps qu'il vous rend infirme. Vous perdez votre œil gauche lors d'une querelle avec une petite fille. Mais avant de livrer cette version des faits, Jim Harrison, vous avez beaucoup brodé autour, reconnaissez-vous, dans vos mémoires intitulées En marge. Est-ce que c'est à cet instant, finalement, que vous avez commencé à romancer, à chercher plusieurs versions à un même événement ?
Well, I think so. You know, I only understand this thing far later in my life, before I've already done everything. But I like the French title, particular En Marge, because what happens, for instance, when I was young, I was obsessed with Indians because my father knew so much about them, and they live in northern Michigan. I was interested or obsessed with Indian culture.
En fait, tout cela, je ne l'ai compris que beaucoup plus tard. D'ailleurs, j'aime ce titre français, En marge, traduction du titre américain Off to the Side. Lorsque j'étais jeune, je me suis intéressé aux Indiens. J'avais une fascination pour les Indiens d'Amérique, en raison de l'influence de mon père, qui connaissait très bien la culture des Indiens, notamment ceux qui vivaient dans le nord du Michigan.
Well, they live on the margins. You know, and writers are often outcasts, outsiders. So it all seemed to merge. And so the eye injury only pushed me faster in that direction, you know.
Et il est vrai que ces Indiens vivent en marge de la société américaine. Un petit peu comme les écrivains d'ailleurs, qui de par leur nature sont eux aussi des gens à l'extérieur de la société qui vivent en marge. Quant à cet accident, c'est vrai qu'il a un petit peu précipité le sens de mon travail.
Also, here's an interesting point. The psychiatrist told me 2 years ago, well after the fact, he was amazed at how many writers had vision problems. You know, like James Joyce, on and on and on. Or once I was on a bus in Montreal at a poet conference, and with two very phenomenal American poets, Robert Creeley and Robert Duncan, and we looked at each other and started laughing because we're all blind in our left eyes.
Anecdote intéressante, il y a deux ans, un psychiatre m'a dit à quel point il était étonné de voir autant d'écrivains avec des problèmes de vue. Il y a James Joyce et beaucoup d'autres, la liste est longue. Et un jour, j'étais à bord d'un bus à Montréal, où je participais à une conférence de poésie, et j'étais avec deux écrivains poètes absolument phénoménaux, Robert Creeley et Robert Duncan, et on a rigolé tous les trois parce qu'on s'est aperçu qu'on était tous les trois borgnes, on avait tous les trois perdu notre ego.
Sometimes it's a comic problem. When I visited the Indians, the Navajo Indians, they think if you're blind in your left eye, you're a witch or a brujo. So they think you're dinde. They think you're very dangerous. So the children will look at you and they start running. They run away. It's very amusing.
Et en plus, ça peut devenir un problème un peu comique. Je me souviens avoir rendu visite à des Navajos et ces Indiens pensent que lorsqu'on est borgne, quand on a perdu son œil gauche, on est un sorcier et qu'on est dindé, donc très dangereux. Et les enfants qui savent cela s'enfuient quand ils vous voient.
Or they call you a skinwalker. It's a very strange kind of thing because a skinwalker can fly like a raven when he wants to go someplace. He becomes a raven. You know, it's all, you know, superstitious, primitive. I'm sure it was true in this country 2,000 years ago. No.
Ou alors ces Indiens vous appellent un skinwalker, concept un peu étrange. Ils prétendent que l'homme borgne de l'œil gauche peut voler comme une corneille. Enfin, ça fait partie de la superstition et de toute cette superstition primitive. Je suis sûr que c'était la même chose en France il y a 2000 ans.
Autre moment fort de votre enfance, à 12 ans, vous quittez le paradis du Michigan pour le sud de l'État, un sud urbain. Je soupçonne que rien n'est idyllique sinon rétrospectivement, écrivez-vous dans vos mémoires. Mais est-ce que cet arrachement n'est pas décisif? Ce Michigan que vous quittez, vous ne le retrouverez jamais, même en y retournant plus tard.
Well, I did later, because then I go back north where I belong, you know, and I lived there then for 50 years. The farther north, the better, even up into the Upper Peninsula, which was very remote, where I even several times saw a wolf near my cabin. I can't get far enough into the woods, that kind of thing.
Je suis retourné dans le Nord beaucoup plus tard. Du reste, j'ai vécu dans le Nord pendant 50 ans. Je me dis que plus je vais vers le Nord, mieux je me sens. Donc je suis retourné dans cette péninsule Nord, loin de tout, à tel point qu'il m'est arrivé de voir un loup proche de ma cabane. Bon, c'est un petit peu comme si j'étais mieux lorsque je suis au plus profond des bois.
It's like this novel I wrote, Dalva. Dalva, you know this. Somebody asked me, what is it about? I said, it's about the character of longing. You know, this, who's this singer from Cape Verde?
Cesaria Ivorian.
Yeah, she has this song, Saudade. It's about the character of longing in your life. You always want this. Alain Fournier wrote about that. It's that same feeling of longing, you know?
Dans mon roman, Dalva, on me demande souvent de quoi il s'agit, et je dis que le personnage principal, ou alors le thème principal, c'est celui de l'attente, du désir insatisfait, une sorte de mélange comme ça, un petit peu ce que chante Cesaria Evora dans une chanson Saudade, c'est ce sentiment d'attente et de désir. Ce concept, on le retrouve également chez Alain Fournier.
C'est peut-être aussi en réponse à cet arrachement que vous découvrez une religiosité nouvelle entre 13 et 16 ans. Mais votre rapport à l'église tourne court, notamment dans une église baptiste où vous découvrez que la chair est pour le moins proscrite. D'emblée, est-ce que vous avez compris, Jim Harrison, que cet aspect de la vie charnelle ferait partie de ce que vous appelez vos 7 obsessions?
Well, what happened then? You become obsessed because of what your emotional content, what you are, and a temporary obsession with religion, which then I felt betrayed me. So that same passion transfers itself to your passion for art. You know, at first I, of course, wanted to be a painter, you know, so I can see nude women, you know, stuff like that. But then I realized I have no talent as a painter. I have to become a writer.
Les obsessions que l'on a dérivent du contenu émotionnel qui vous habite. Et moi, j'ai eu, c'est vrai, une obsession temporaire pour la religion qui m'a quitté. Et cette passion, je l'ai transfigurée dans l'expression artistique. En effet, je voulais être peintre à l'origine pour pouvoir voir et peindre des femmes nues. Mais malheureusement, je n'avais pas le talent pour être peintre, alors je me suis contenté de devenir écrivain.
See, it's confused when you're young, you know. When you're 15, you're reading poetry, you want to make love to your teacher, you say your prayers, everything is at once. You know, everything is at once, everything is confused, everything is tied into a knot.
Lorsqu'on est jeune, tout est confus dans l'esprit. Lorsqu'on a 15 ans, on lit des poèmes, on veut faire l'amour à sa professeure, à son enseignante, on fait des prières, tout ça en même temps, tout est imbriqué et confus dans l'esprit d'un jeune.
Alors à 16 ans, vous annoncez à votre père que vous voulez devenir écrivain, Jim Harrison, et contre toute attente, il vous offre une machine à écrire d'occasion et il ne s'inquiète pas du tout des carrières plus aléatoires que peut offrir un destin d'écrivain. C'était une surprise pour vous ?
Oh, sure. I mean, it was a $20 typewriter, but still, we were quite poor. And it was just a nice present. See, the problem with so many young artists is their parents oppose them. You know, so that causes unhappiness because they are always trying to justify themselves to their father. So it was easier for me because my father very much approved that I would be a writer, you know, no problem. So I didn't have to go through that anguish, you know.
C'est un cadeau formidable, cette machine à écrire. Je me souviens, c'était une machine à écrire qui valait $20. Nous étions une famille assez pauvre, donc c'était un très beau cadeau. C'est un petit peu ça le problème des jeunes artistes, c'est la réticence, voire l'opposition qu'ils rencontrent de la part de leurs parents. Et ça fait leur malheur, parce qu'ils sont sans arrêt en train de se justifier auprès de leur père, notamment. Pour moi, c'était plus facile. Mon père approuvait cette vocation d'écrivain que je voulais embrasser, et je ne souffrais pas de cette anxiété.
The metaphor here is very funny. You know that French movie with Jean Rochefort? I love it when this little boy, he just likes to get his hair cut from this beautiful woman. So his father says, when you grow up, what will you be? And he says, all I want to do when I grow up is to get my hair cut. So his father whaps him, you know. This is impossible, but that's how it works so often. The parents oppose the child, you know.
Oui, c'est une métaphore intéressante. Ça me rappelle ce film avec Jean Rochefort, le mari de la coiffeuse. On voit un petit garçon qui adore se faire coiffer, couper les cheveux par une très belle femme. Et son père lui demande « Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras plus grand ?» Et il lui dit en guise de réponse « Je veux me faire coiffer. » Et c'est tout. Et à ce moment-là, son père le gifle. Et malheureusement, c'est quand même une métaphore intéressante parce que c'est souvent le cas, le fait que les parents n'approuvent pas les choix des enfants.
Cette machine à écrire, c'est aussi une dette, Jim Harrison. Vous avez 19 ans à la mort de votre père et de votre sœur dans un accident de voiture. Vous aviez déjà écrit des vers, mais peu après l'enterrement, cette fois-ci, vous les achevez. Vous écrivez « Il y a un plaisir spécifique à l'achèvement d'un simple poème, même s'il semble être un simple exercice destiné à prouver que vous êtes vivant. »
Well, you know what happens. If those who you love die so suddenly, you realize that there's no reason to do anything except to become an artist. You see what I mean? You're just pushed because life then becomes so impossible with anguish that there's no possible reason is to do anything but to follow your heart's desire. You know?
Lorsque vous perdez des proches de manière soudaine, vous vous rendez compte que il ne reste rien de mieux à faire que de devenir artiste. En effet, la vie devient impossible, il y a trop de tristesse et il n'y a pas d'autre possibilité que de suivre le désir de son propre cœur.
It's almost amusing the way we comprehend our lives so late after the fact, you know. You only understand much of your life after it is long gone.
C'est presque amusant de voir à quel point on ne comprend sa vie que très tard après le déroulement des faits.
Il semble donc y avoir un lien très fort entre l'écriture et la mort, même si votre œuvre parle de vie, de grands espaces. Votre œuvre, finalement, en célébrant la vie, n'est-elle pas un retour continuel à la blessure, Jim Harrison?
Yeah, you know, I wondered about that too later. Again, it's the continuity comes later, but I remember when I was 18, I first read Lorca, Apollinaire, so many of these poets when I'm 18, foreign poets, okay? And Lorca says there's only three subjects to write about: love, suffering, and death.
Oui, c'est une question que je me suis posée. C'est vrai que la continuité vient après. À l'âge de 18 ans, j'ai commencé à lire Garcia Lorca, Apollinaire et un certain nombre d'autres poètes étrangers. Garcia Lorca dit qu'il n'y a que trois choses à propos desquelles on peut écrire. C'est l'amour, la souffrance et la mort.
Lorca also said, I am only the pulse of a wound that probes to the opposite side.
Garcia Lorca a dit, les poètes sont le pouls de la blessure qui sont de l'autre côté.
Ironically, on Wednesday, I go to Granada to see where Lorca was shot. Ever since I was young, I had to see this place. Now, 50 years later, I will finally go to see the forest where he was executed.
L'ironie du sort veut que dans quelques jours, je vais me rendre à Grenade, où Garcia Lorca a été tué. Je pense à cet événement malheureux depuis si longtemps. Ça fait des années que je me dis qu'il faut que j'y aille, et j'y vais. Justement, je vais me rendre dans la forêt où il a été exécuté.
Vous avez mentionné Garcia Lorca. Quelles ont été les autres influences qui vous ont aidé à vivre, finalement, Jim Harrison?
Well, no, there were so many at that time. I had a teacher, it was absurd, in this little school out in the country. I had a teacher that was a Francophile, a high school teacher. So she gives me, I first read Rimbaud when I was 15. Apollinaire I loved because of his sense of humor. But I read Stendhal, I read everybody.
Mes influences sont tellement nombreuses que je ne pourrais pas toutes les citer. Au lycée, j'avais un enseignant francophile qui m'a montré la voie pour lire Rimbaud. J'ai lu Rimbaud à l'âge de 15 ans et Apollinaire, que j'aime beaucoup par son sens de l'humour, et puis Stendhal, je les ai tous lus.
I didn't so much like English novelists for some reason. I like French and Russian novelists, the main content of my influence, and of course American novelists. My hero was Faulkner. But when I moved to New York, I take with me only five books. I forget what they were. Rimbaud, Faulkner, Dostoevsky, you know. It's what you are when you're 18. It's painful.
Je n'aime pas tellement les romans anglais. J'ai un penchant pour les romans français et russes. Et puis évidemment les romans américains. Mon idole c'est Faulkner. Lorsque j'ai déménagé pour me rendre à New York, j'ai pris 5 livres avec moi. Je ne me souviens pas exactement de ces livres. Rimbaud sans doute, Faulkner, Dostoïevski, tout ce que peut emmener un jeune homme de 18 ans dans ses bagages. Le choix est très difficile à faire.
But part of it's comic, of course. You want to be Baudelaire because if you're Baudelaire, you will have a girlfriend like Jean Duval. You know, that kind of nonsense, you know.
Ça fait mal, mais en même temps, c'est drôle. À cet âge-là, on veut être Baudelaire, parce qu'on se dit que si on est Baudelaire, on va être avec Jeanne Duval. Vous voyez, ça n'a strictement aucun sens.
You know, you're horny for art, you're horny for women, you're horny for food. You're just a complete living explosion.
À cet âge-là, on bande pour tout. On bande pour l'art, pour les femmes, pour la nourriture. On est une explosion vivante.
Après ces quelques pas dans l'univers de votre enfance, nous vous suivrons demain, Jim Harrison, dans votre entrée en littérature qui se confond avec l'urgence de la poésie. Une poésie qui, nous le verrons, est souvent une question de vie ou de mort.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Jim Harrison avec Clémence Boulouk en 2006. À voix nue, attachée d'émission Claire Poinsignon, Anne-Catherine Lochard, réalisation Véronique Samouilov, Delphine Lemaire. Coordination Béline Dola. Cette émission s'écoute en ligne et se podcast sur franceculture.fr.